Bonjour, Laure Martin, cours MK4MA001, Histoire culturelle de l'Occident contemporain, enregistrement numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre vos dispositions pour pouvoir continuer à travailler sur ce cours comme sur les autres prévus pour cette fin de deuxième semestre. Les conditions évidemment ne sont pas idéales, j'en ai bien conscience, et moi-même ai un peu de mal parfois à avancer, mais voilà, on essaye, on fait du mieux que l'on peut. Comme pour l'autre cours sur les institutions et politiques culturelles en France, il me reste trois séances. Cette première séance qui fera l'objet, enfin cette séance numéro 8 en réalité, faire l'objet du premier enregistrement et des peut-être deux ou trois autres enregistrements, puisque je vais fractionner cet enregistrement en plusieurs pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. Donc cette huitième séance sera consacrée à l'histoire du mouvement étudiant dans les années 60. La séance 9 sera consacrée à aux années 70 et à cette question de la crise de la civilisation telle qu'on pouvait l'envisager dans les années 70. Vous verrez qu'il y a des échos assez frappants avec les événements que nous connaissons actuellement et les réflexions que ces événements suscitent chez un certain nombre d'analystes. Et puis la dernière séance sera un peu dans le prolongement de la séance 9, sera dans le sera consacré au changement de paradigme dans le monde intellectuel des années 70 aux années 80. Toutes ces séances donc seront enregistrées. Je fabriquerai également des présentations PowerPoint et je déposerai tout cela ainsi que des documents PDF sur eCampus afin que vous en preniez connaissance et vous puissiez donc continuer à travailler de chez vous, en écoutant les enregistrements, en lisant les documents, etc. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, donc comme je vous le disais pour l'autre cours, elles ne sont pas pour l'instant complètement fixées. J'attends un certain nombre de consignes du département et de l'université. Probablement s'agira-t-il d'un devoir à faire à la maison et à me rendre et à déposer sur l'ENT. J'ai entendu qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui avaient des problèmes de connexion, des problèmes d'accès à eCampus ou des problèmes de boîte de messagerie mail. Si vous avez connaissance de tels problèmes, si certains de vos camarades sont touchés par ce type de problème, je vous invite à me contacter, à m'envoyer un mail à mon adresse professionnelle laurent.martin@sorbonne-nouvelle.fr afin que je sache qui est concerné et que je puisse essayer que j'essaye de trouver des solutions alternatives, par exemple déposer des choses sur mon blog s'il y a un problème d'accès à eCampus ou d'autres solutions. Voilà, j'ai conscience qu'encore une fois les conditions sont extrêmement difficiles, mais en même temps je ne peux pas et ne veux pas renoncer à aller jusqu'au bout, si possible, de ce cours pour que vous ayez eh bien, un semestre à peu près complet. Voilà, donc, comme je le disais, ce premier enregistrement est consacré à la question du mouvement étudiant des années 60, et d'abord, donc c'est le premier point, aux circulations inter- et transnationales. La circulation, la diffusion des révoltes de la jeunesse des années 60 en Europe et aux États-Unis invite en effet à la comparaison comme à la recherche de facteurs communs ou de différences entre les expériences nationales. C'est à Berkeley, en Californie, au cours de l'automne 1964, que la contestation proprement étudiante commence avec la revendication d'un pouvoir étudiant, une revendication qui est portée par un collectif qui s'appelle le Free Speech Movement. Free Speech Movement, le FSM. En Europe, et particulièrement en Italie, c'est à l'Institut supérieur des sciences sociales à Trente, en Italie, donc, qui est première université européenne à se mettre en grève à partir de janvier 1966, d'abord sur des objectifs strictement universitaires. L'Institut supérieur des sciences sociales à Trente, donc en Italie, est suivi en mars 1967 par la London School of Economics à Londres, puis par le campus de Nanterre. L'agitation fait tache d'huile l'année suivante, en janvier à Madrid, à Leicester en février, à Rome en mars, à la Columbia en avril, etc., etc. On observe également des mouvements en Belgique, en Suède, en Pologne, en Tchécoslovaquie, au Japon, etc. L'anti-américanisme est une composante essentielle des mouvements contestataires. La lutte contre la guerre du Vietnam prend de l'ampleur à partir de 1967. Elle s'internationalise, elle devient le vecteur essentiel de circulation de la contestation et de mise en contact entre les différentes composantes de ce qu'on appelle la nouvelle gauche. Le tribunal Russell, du nom de cet intellectuel britannique, RU2SE2L, qui réunit des personnalités du monde entier, est lancé en novembre 1966 et se réunit à Stockholm en mai 1967, la France ayant refusé de l'abriter. Ce tribunal Russell, donc, qui est composé de différents intellectuels et activistes politiques, condamne les États-Unis pour génocide au Vietnam. À un congrès international sur le Vietnam, auquel participent divers groupements étudiants, le SDS allemand, la JCR française, des étudiants également français du PSU, ce congrès international sur le Vietnam est organisé par Rudi Dutschke, alors qui est la figure éminente du mouvement étudiant allemand Berlin-Ouest. Dutschke, ça s'écrit Dutschke. Donc ce congrès est réuni à Berlin-Ouest les 17 et 18 février 1968. À l'automne, ce sont des étudiants du SDS qui se rendent au Japon pour y rencontrer leurs homologues japonais du Bundo, BUNDO, le Bundo qui est la ligue en fait des communistes, des étudiants communistes japonais. Ainsi, l'échange direct d'expérience entre étudiants se réalise à l'échelle internationale. La méfiance à l'égard de la gauche traditionnelle et des partis communistes n'a fait que s'étendre après la crise de Budapest en 1956 et le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. À la gauche des partis communistes, les mouvements favorables aux luttes du tiers-monde et aux indépendances des colonisés se développent, en particulier dans la jeunesse. Quelles que soient les dénominations, plusieurs points communs se dégagent de l'observation de cet ensemble de mouvements étudiants. La méfiance à l'égard de la gauche traditionnelle, qui va jusqu'à des formes d'anticommunisme, et plus généralement la méfiance à l'égard de toutes les institutions et les organisations syndicales, politiques et autres. Pardon. L'empreinte libertaire matinée de marxisme dans un dosage variable de pays à pays et de groupe à groupe. L'attention portée au moins autant à l'aliénation qu'à l'exploitation. Les attentes à l'égard du tiers-monde, la critique à l'égard de la société de consommation et pour certains de la société productive, d'où les critiques de la technologie et l'émergence du thème de l'écologie. Enfin, l'anti-autoritarisme. Dans L'âge des extrêmes, paru en 1994, l'historien marxiste britannique Eric Hobsbawm pointe deux éléments essentiels de la révolution culturelle de ces années. Le premier, dans la lignée de la pensée exprimée par Edgar Morin dans L'esprit du temps, sur le rôle de la jeunesse, signale l'émergence, je cite, hein, l'émergence d'une conscience inédite de la jeunesse occidentale de former un groupe numériquement important. Le deuxième constate l'existence de vecteurs nouveaux de circulation des idées. L'accent est mis ici sur la communication de masse et le développement inédit des industries culturelles. Plusieurs revues abordent les questions internationales et le soutien aux luttes du tiers-monde, en particulier la revue Partisan, qui est publiée entre 1961 et 1972 par les éditions Maspero, M-A-S-P-E-R-O, qui prend pour thème les indépendances du tiers-monde, Cuba, les relations URSS-Chine, les révoltes noires aux États-Unis, la guerre du Vietnam, le conflit israélo-arabe, les événements internationaux de 1968 et jusqu'à la mort de Pierre Auvernet en 1972. Auvernet, O-V-E-R-N-E-Y. Fondé par François Maspero, Gérard Chalian et Georges Mattei, trois acteurs de la guerre d'Algérie, la revue Partisan, au pluriel, informe, publie des documents pour favoriser les débats. Elle s'interroge sur les transformations du socialisme en publiant des textes fondamentaux. Autre revue importante publiée également chez Maspero, la revue Tricontinentale, publiée entre 1968 et 1981, est l'organe théorique du secrétariat exécutif de l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Donc, Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, c'est une revue internationale dont Maspero publie l'édition française, qui voit le jour à La Havane en 1967 et donne une large place aux luttes du tiers-monde. Le premier numéro de l'édition française paraît en 1968, avec un article de Jean-Paul Sartre notamment, de Nuremberg à Stockholm. Il fait référence ici, et bien évidemment, aux travaux du tribunal Russell, hein, qui a encore une fois jugé et condamné les États-Unis pour génocide au Vietnam. La revue est inscrite à la commission paritaire de la presse. Le ministre de l'Intérieur français, Raymond Marcellin, Marcellin, interdit la revue Tricontinentale en 1969, celle-ci étant mise en cause pour ses relations avec Cuba. Elle est régulièrement confrontée à la censure et aux interdictions. Ces revues contribuent à donner une image et une portée internationale aux luttes contre le capitalisme et contre les gouvernements des démocraties occidentales. Certaines figures apparaissent comme des porte-paroles et des messagers à l'échelle européenne. Parmi eux, on peut citer Daniel Cohn-Bendit, Cohn-Bendit, qui incarne le mouvement étudiant français et qui est notamment leader dans ce qui a été le mouvement qui est parti de Nanterre le 22 mars. Ce mouvement du 22 mars, dont l'organisation et la fonction diffèrent de celui d'un parti politique traditionnel, est assez représentatif de la façon dont vont fonctionner, non seulement en France, mais dans d'autres pays, les divers mouvements et groupuscules étudiants. Daniel Cohn-Bendit, en particulier, qui est à la fois français et allemand, joue un rôle très actif à l'échelle européenne. On peut mentionner également, je l'avais fait tout à l'heure, l'allemand Rudi Dutschke, Dutschke, membre du SDS, comme l'un des leaders également du mouvement international, alors, du mouvement des étudiants allemands, mais qui a une réputation internationale. Rudi Dutschke fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un jeune, apparemment sous l'influence de l'extrême droite, le 11 avril 1968. Il est donc visé par un extrémiste de droite devant le bureau du SDS à Berlin. Il est hospitalisé. Il va s'en sortir provisoirement, mais il mourra de ses séquelles, des séquelles de ses blessures, une dizaine d'années plus tard, en 1979. Après être sorti de l'hôpital, ayant récupéré en partie l'usage de la mémoire et de la parole, Dutschke va partir en 1968 avec son épouse américaine, d'abord en Suisse, ensuite en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, participant ainsi à la diffusion internationale du mouvement étudiant. Dutschke, qui se déclarait à la fois chrétien et socialiste, préconisait une révolution mondiale pour la libération des hommes de la guerre, de la faim, de l'inhumanité, de la manipulation. Il militait pour un mouvement pacifique, refusant la violence, contrairement à un certain nombre d'autres étudiants qui vont basculer dans la violence dans les années 70. Le mai français, le mouvement de mai 68 en France, représente à certains égards un exemple fascinant de lutte révolutionnaire transnationale. Des militants de plusieurs nationalités vont s'en inspirer, feront parfois d'ailleurs le voyage en France. Par exemple, des étudiants de l'université d'Essex, en Grande-Bretagne, quittent en mai 1968 leur université pour la France, pour Paris, où se déroule selon eux la véritable action. Une organisation étudiante de sensibilité trotskiste révolutionnaire, la Revolutionary Socialist Students Federation, RSSF, de sensibilité donc trotskiste, reçoit le 12 juin 1968 la visite de deux leaders français du mouvement étudiant, Daniel Cohn-Bendit et Alain Geismar, G-E-I-S-M-A-R, qui le lendemain passe à la télévision pour une émission de la BBC réunissant différents leaders de mouvements étudiants à travers l'Europe. Le mai français, le mai italien, se caractérise par les interactions du mouvement étudiant avec le mouvement ouvrier. En Italie, le mai rampant, ce qu'on appelle le mai rampant, car il va se dérouler sur une assez longue durée, sur plusieurs mois, va se prolonger jusqu'en 1969. Et il s'inspire très explicitement, très directement, des slogans et des modes d'action du mai français. À l'échelle internationale, ce mouvement présente un certain nombre de différences. Aux Pays-Bas, par exemple, il n'y a pas eu véritablement de moment 68, mais en revanche, l'apparition d'un mouvement qu'on pourrait qualifier d'avant-garde politico-artistique, le mouvement Provo, P-R-O-V-O, qui va durer entre 1965-1967, qui va unir plusieurs générations et qui a pour but de provoquer, de mettre en cause les valeurs bourgeoises de la société des années 60, de développer une critique de la société de consommation et de présenter des alternatives. C'est un mouvement qui se caractérise par l'originalité de ses modes d'action, depuis le teach-in jusqu'au happening spectaculaire, et qui va lui-même inspirer à l'échelle internationale la contre-culture américaine comme la contestation française. Alors je vais maintenant, dans un deuxième point, présenter le cas des États-Unis. Les années 60 sont marquées par une mobilisation inédite des étudiants américains. Ceux-ci s'engagent d'abord contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Alors que la mobilisation contre la guerre s'amplifie, le mouvement étudiant va se tourner vers une critique des institutions américaines, de la société américaine, inspirée par ce qu'on appelle donc la New Left, la Nouvelle Gauche. Comme en Europe, l'année 67-68 va marquer l'apogée de ce mouvement de contestation étudiante et la fin de la décennie, le début des années 70, à la fois des formes de radicalisation et le reflux du mouvement en tant que mouvement de masse. L'ampleur de la mobilisation traduit d'abord le poids nouveau des étudiants dans la population. La croissance du nombre d'étudiants commence après-guerre, elle est soutenue par une série de mesures qui visent à garantir l'accès du plus grand nombre à l'éducation supérieure, ce qui est un enjeu majeur pour les autorités dans le contexte de guerre froide. La plus connue de des mesures qui sont prises par le gouvernement américain, adoptée en 1944, c'est le GI Bill, qui est une mesure qui est prise pour faciliter le retour des anciens soldats à la vie civile et qui permet aux anciens GI de bénéficier d'années de formation. Donc ils peuvent aller facilement, s'inscrire facilement dans les universités ou aller à l'étranger pour se former. À cela s'ajoute l'effet du baby boom à partir du début des années 60. L'investissement en faveur de l'éducation et de la recherche contribue à la diffusion d'idées critiques. Les départements de sciences sociales, en particulier en pleine croissance, dans ces années 50-60, fournissent aux étudiants des références nouvelles, tandis que l'importance des fonds alloués aux programmes de recherche, notamment de programmes de recherche militaire, gonfle également les effectifs des universités. Avant 1964, les mobilisations étudiantes sont relativement marginales en nombre. À la fin de la décennie des années 50, deux thèmes majeurs mobilisent les étudiants. d'une part le pacifisme, pardon, je reprends. À la fin de la décennie des années 50, donc, deux thèmes majeurs mobilisent les étudiants. D'une part, le pacifisme, d'autre part, le mouvement des droits civiques en faveur donc des Noirs américains. En 1959 est créée une association qui s'appelle la Student Peace Union, SPU, Student Peace Union, donc l'Union des étudiants pour la paix. Tandis que au printemps 1960, printemps 1960 est créé le Student Nonviolent Coordinating Committee, le SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee, donc le comité de coordination des étudiants non violents, qui s'engage dans le combat en faveur des civil rights, donc de l'égalité raciale. Les étudiants américains au sud comme au nord des États-Unis, participent activement, en tout cas certains d'entre eux, aux actions de sit-in et à ce qu'on appelle les Freedom Rides, qui sont en fait des manifestations non violentes. Et donc on a tout un répertoire d'actions non violentes qui se développe à ce moment-là et qui sera réutilisé dans les années 60. En 1960, des manifestations contre ce qu'on appelle la House Un-American Activities, qui était un organisme gouvernemental qui cherchait à lutter contre essentiellement le communisme, mais et aussi d'autres activités considérées comme non américaines. Donc ces manifestations contre la House Un-American Activities à San Francisco marquent de façon symbolique la résurgence d'une gauche radicale sur les campus. Donc en particulier sur les campus des universités à San Francisco, je pense notamment à Berkeley. Cette nouvelle gauche est incarnée par une nouvelle association, le Students for a Democratic Society, Students for a Democratic Society, SDS, qui est donc fondée en 1960. 2 ans plus tard, la déclaration de Port-Huron, qui est simplement la ville où est rendue publique cette déclaration, Port-Huron, donc Huron comme la tribu indienne, hein, Huron, développe de façon détaillée les idées politiques du SDS. Parmi celles-ci, le concept de démocratie participative qui vise à mettre en capacité, en termes américains, l'empowerment, mettre en capacité des populations marginalisées pour les rendre actives sur le plan politique. Entre 1963 et 1965, le SDS met ainsi en œuvre des projets d'action et de recherche économique au sein de communautés ouvrières, avec un succès mitigé. Le SNCC, donc le Student Nonviolent Coordinating Committee, et le SDS, le Students for a Democratic Society, s'affirme au début des années 60 comme les deux principales organisations étudiantes sur les campus américains. Elles se distinguent par leur recrutement et leur philosophie. Alors que les membres du SNCC sont majoritairement issus de milieux modestes du sud rural, marqués par une rhétorique religieuse de la rédemption, le SDS attire pour sa part surtout les classes moyennes blanches des campus du nord, attachées à l'idée de justice. Souvent opposées, les deux organisations se retrouvent sur plusieurs points. Partageant un fort idéalisme, elle dénonce la distance entre les valeurs proclamées de la société américaine et la réalité. Elle puise leurs références dans les critiques formulées par la génération antérieure. Ces références, ainsi que le rôle en leur sein de ce qu'on appelle les Red Diaper Babies, les jeunes issus de familles de gauche, des familles ce qu'on appelle comment dirais-je, les progressistes, hein, aux États-Unis, font apparaître leur lien avec l'ancienne gauche. Le SNCC, le SDF et le SDS affichent toutefois une volonté de rupture avec la gauche traditionnelle et son approche jugée élitiste, top-down, hein, avec une vision un peu trop verticale, disons, des mots d'ordre. Cela se traduit par une grande flexibilité d'action au niveau local et une forte indépendance à l'égard des partis incarnés par de jeunes leaders très médiatiques. Par exemple, Tom Hayden, Hayden, qui est le président du SDS à partir de 1962, ou encore Stokely Carmichael, qui est un leader noir à la tête du SNCC à partir de 1966. Carmichael, Carmichael. À côté de ces deux organisations, de nombreuses autres s'impliquent dans ce qui devient véritablement, au milieu des années 60, un mouvement de masse de contestation nationale. Ce mouvement prend une ampleur particulière à partir d'un incident d'abord local survenu en 1964 à Berkeley, qui est la prestigieuse université d'État de Californie. Ce campus est alors, comme d'autres, le théâtre d'un nouvel activisme inspiré du combat pour les droits civiques dans le Sud, que l'université, la direction de l'université s'emploie à freiner. L'arrestation, le 1er octobre 1964, d'un activiste par la police du campus met le feu aux poudres. Entre 2000 et 3000 étudiants accourent et bloquent les policiers, transformant leur voiture en une tribune improvisée. Les discours vont se succéder pendant plusieurs dizaines d'heures. Le Free Speech Movement, le FSM, est né à ce moment-là. À sa tête se trouve un étudiant membre du SDS qui s'appelle Mario Savio, Savio. Dans les semaines qui suivent, l'obstination des étudiants militants et des autorités universitaires conduit à une spirale de mobilisation. En décembre, les étudiants occupent les bâtiments de l'administration. Le sit-in, auquel se joint la chanteuse Joan Baez, Baez, grande figure qui deviendra bientôt une icône de la culture folk, de la musique folk, rassemble 6 000 personnes et marque une nouvelle étape dans la radicalisation du mouvement. Il se conclut par l'arrestation de presque 800 d'entre eux, première arrestation de masse d'étudiants non violents à l'échelle nationale. En réaction, les mouvements étudiants entament une grève, rejointe par une partie du corps enseignant. Cette grève fera finalement céder les autorités. En 1965, le Free Speech Movement rejoint les rangs des opposants à la guerre du Vietnam. Dans un schéma que l'on retrouve ailleurs, la répression, loin de calmer la contestation, amplifie cette dernière. Un sentiment de solidarité étudiante se développe à l'échelle nationale. Les étudiants se mobilisent à travers le pays pour défendre leur liberté, liberté politique mais aussi sexuelle, dénoncer la hiérarchie au sein de l'université. En 1965, le mouvement d'opposition à la guerre prend une ampleur nationale. Le 1er avril 1965, une manifestation organisée à l'appel du SDS réunit 20 000 personnes à Washington. Apparue à l'université du Michigan, Ann Arbor, la pratique des teach-in, donc les sessions publiques d'information sur la guerre conduites par des étudiants et des enseignants, se diffuse. En octobre ont lieu les premières journées internationales de protestation, encadrées par un National Coordinating Committee to End the War in Vietnam, remplacé l'année suivante par un Spring Mobilization Committee, lui-même secondé par un Student Mobilization Committee. Si le mouvement anti-guerre est progressivement rejoint par des personnalités connues, les étudiants vont en rester le fer de lance. Comme l'a montré l'historien Todd Gitlin, Gitlin, qui est lui-même un ancien étudiant du SDS, les médias vont jouer un rôle majeur dans la diffusion et la radicalisation du mouvement. Bien qu'assez négative, la couverture médiatique renforce la notoriété du SDS. De moins de 2 000 adhérents fin 1964, le SDS passe à 10 000 adhérents fin 1965. Cette médiatisation pousse également le mouvement étudiant à privilégier les actions spectaculaires, à un moment où la première génération cède la place à de plus jeunes militants, plus radicaux. Les étudiants mobilisés restent toutefois minoritaires sur les campus jusqu'en 1967. La décision du gouvernement en 1966 de lever partiellement l'exemption de conscription dont ils bénéficiaient jusque-là contribue à l'extension du système. Ce système, qui vise les étudiants les moins bien notés et nécessite donc la collaboration des autorités universitaires, alimente la remise en cause du pouvoir, la contestation du pouvoir au sein de l'université et les attaques contre le complexe militaro-industriel et la guerre du Vietnam. Alors que la critique de la démocratie américaine s'accentue sur les campus, la mobilisation contre la guerre se transforme en un mouvement social complexe autour des notions de justice et de pouvoir. La Spring Mobilization d'avril 1967 est marquée par des marches d'une ampleur inédite. En marge de celles-ci apparaissent les premières actions de résistance à la conscription, donc cette mesure qui oblige les étudiants les moins bien notés à partir, à être enrôlés dans les rangs de l'armée américaine pour partir au Vietnam. Bravant la loi, des jeunes brûlent publiquement leurs cartes de conscription. Ces actions de résistance, auxquelles s'ajoutent d'autres mouvements moins visibles de désertion, notamment beaucoup d'étudiants vont passer la frontière et se réfugier au Canada, se fondent sur une stratégie de désobéissance civile héritée de Gandhi et des civil rights, des droits du mouvement des Noirs américains pour l'égalité raciale. Elles illustrent aussi le nouveau mot d'ordre du SDS, passer de la protestation à la résistance. Le SNCC, de son côté, a lui abandonné officiellement la non-violence à la fin de 1966. Cette évolution entraîne d'importantes tensions au sein du mouvement étudiant. À une minorité qui prône une opposition radicale et parfois violente, visant une transformation complète de la société américaine par une forme de révolution, s'oppose une majorité acquise à l'opposition à la guerre, mais sans volonté révolutionnaire et sans appel à la violence. La scission est établie à Oakland en octobre 1967. Une manifestation pacifique contre le centre de recrutement de l'armée se transforme en véritable attaque, donnant lieu à une bataille rangée entre activistes et policiers. L'année 1968 est également marquée par des mobilisations spectaculaires et par des violences. En avril, l'Université Columbia de New York est occupée par des étudiants qui dénoncent les liens de l'université avec l'armée, ainsi que son rôle dans le renforcement de la ségrégation urbaine. Il s'ensuit une vague d'arrestations et en réponse une grève qui entraîne la fermeture de l'établissement pendant un mois. En août 1968, des incidents éclatent en marge de la Convention démocrate à Chicago. La répression, extrêmement brutale et médiatisée, choque le pays. Plusieurs études récentes ont mis en lumière la dimension locale de ces luttes, éclairant notamment les causes de la mobilisation marquée dans certains campus. Un historien, Matthew Levin, L-E-V-I-N, a ainsi montré comment une tradition de gauche, dont l'expression avait été tolérée dans les années 1950, avait donné naissance à une nouvelle gauche locale à l'université Madison, dans le Wisconsin. Si l'attitude libérale de certains enseignants a pu encourager la révolte étudiante, la réponse répressive, à Madison comme ailleurs, explique la radicalisation du mouvement à la fin de la décennie. Celle-ci trouve son illustration la plus tragique en mai 1970 à la Kent State University, dans l'Ohio. La répression d'une manifestation fait 4 morts, entraînant une vaste grève nationale, auquel participent 4 millions d'étudiants. Une grève qui contribue à précipiter l'opinion publique dans le camp de l'opposition à la guerre du Vietnam. L'étude des luttes locales révèle également la complexité et la diversité du mouvement étudiant. La chercheuse Caroline Roland-Diamond, R-O-L-A-N-D-Diamond, D-I-A-M-O-N-D, Roland-Diamond, a ainsi montré comment les étudiants noirs de Chicago s'étaient dès le début des années 60 mobilisés autour de questions locales liées à la ségrégation. Les étudiants issus des minorités se battent aussi, à Chicago et ailleurs, pour que soient ouverts des départements consacrés aux études noires, chicanos ou amérindiennes. Les historiens ont également souligné des nouvelles mobilisations sur lesquelles débouche le mouvement étudiant en dépit de son déclin rapide après 1968. Déclin qui est précipité par les divisions entre les étudiants, la répression également et la fin de la guerre au milieu des années 70. Fait souvent oublié en raison de son aspect très marginal, la mobilisation étudiante concerne aussi les groupes conservateurs. S'ils restent très minoritaires dans les années 60, leur activisme, à travers notamment la fondation des Young Americans for Freedom, en 1960, est à la base d'une lente reconquête conservatrice du pays. Très investie dans la campagne présidentielle de 1964, la Young Americans for Freedom se transforme en un groupe de pression capable de se faire entendre au-delà des campus dans les années 70. militants et anciens militants seront en soutien pour la candidature de Ronald Reagan en 1980. J'arrête ici ce premier enregistrement. J'en ferai un deuxième sur le mouvement étudiant au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. J'espère pouvoir faire tout cela en 30 minutes. Et je ferai un troisième enregistrement qui portera cette fois sur le mouvement étudiant français. Merci.